Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Le président américain Donald Trump a décidé de suspendre la contribution des États-Unis à l'OMS, coupable à ses yeux d'avoir commis de nombreuses erreurs sur le coronavirus et d'être trop proche de la Chine. Nous y reviendrons plus en détail dans un instant avec Michel Joseph. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dit dans sa réaction hier que ce n'est pas le moment de réduire le financement des opérations de l'Organisation mondiale de la santé ou de toute autre institution humanitaire combattant le virus. Selon lui, l'OMS doit être soutenue car elle est absolument essentielle aux efforts du monde pour gagner la guerre contre le COVID-19. Après deux jours de baisse, les États-Unis ont enregistré hier, selon l'Université Johns Hopkins, plus de 2 200 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays, ce qui porte le bilan américain à 25 750 morts au total. Suivent l'Italie, plus de 21 000 morts, l'Espagne, plus de 18 000, et la France, plus de 15 700. L'Amérique compte également le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, avec plus de 600 000. L'épicentre de l'épidémie en Amérique se situe toujours à New York, où un ralentissement se confirme toutefois avec des admissions hospitalières en baisse. À travers les ténèbres, nous pouvons apercevoir des rayons de lumière, a déclaré hier le président Trump lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie. Le débat sur la fin du confinement et la relance de l'activité s'est intensifié ici aux États-Unis sur fond de polémiques politiques. M. Trump, après avoir affiché sa détermination à dicter le tempo, s'est montré mardi plus conciliant avec les gouverneurs des États les plus exposés, New York en tête, qui redoutent un déconfinement précipité et mal coordonné. Si la reprise de l'activité est encore loin pour de nombreux pays, en Europe, certains ont commencé à engager ou à esquisser un timide déconfinement à la faveur d'une légère embellie sanitaire. Un moratoire sur la dette des pays africains est une étape indispensable pour aider le continent à traverser la crise du coronavirus en attendant un effacement total de cette dette, a affirmé mercredi le président français Emmanuel Macron dans un entretien à RFI. M. Macron a invité les ministres des Finances des pays du G20 qui se réunissent mercredi à acter ce moratoire alors que la pandémie menace de déborder les fragiles systèmes de santé des pays les plus pauvres. Le FMI a prévenu hier que cette crise du coronavirus qui, je cite, « ne ressemble à aucune autre », provoquerait une récession mondiale d'au moins 3% cette année, voire beaucoup plus si les mesures de confinement ne sont pas levées d'ici juin. La Guinée a enregistré mardi son premier décès dû au nouveau coronavirus, a annoncé un responsable à la télévision nationale, un Libanais de 75 ans, chez qui le virus avait été décelé, mais qui avait choisi de s'autoconfiner, s'est présenté mardi matin au médecin en état de détresse respiratoire, mais n'a pas pu être sauvé, a déclaré le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire. La Guinée a officiellement déclaré 363 cas de contamination. La police sud-africaine a dispersé mardi par des tirs de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène des habitants d'une banlieue pauvre du Cap, furieux de ne pas recevoir de nourriture dans le cadre du confinement anti-coronavirus, a constaté un journaliste de l'AFP. Le président Cyril Ramaphosa a promis des distributions de nourriture aux populations les plus modestes du pays, déchirées par des inégalités criantes entre riches et pauvres. En Libye, des dizaines de roquettes se sont abattues mardi sur la capitale Tripoli, des tirs imputés aux forces du maréchal Khalifa Haftar, qui ont perdu deux villes stratégiques dans l'ouest de la Libye, plongées dans le chaos. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, tente depuis un an de s'emparer de Tripoli, où siège son rival, le gouvernement d'Union nationale, reconnu par l'ONU. La suite de nos informations. Le président Donald Trump a donc annoncé hier la suspension de la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé en raison, a-t-il dit, de sa mauvaise gestion de l'épidémie du nouveau coronavirus. Le point avec Michel Joseph.
Aujourd'hui, dit le président Trump, j'ordonne la suspension du financement de l'Organisation mondiale de la santé pendant qu'une étude est menée pour examiner le rôle de l'OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus. Dans son point de presse quotidien depuis la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a ajouté que le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité du COVID-19. Les États-Unis sont le plus grand contributeur de fonds de l'ONU, ayant fourni 400 millions de dollars l'année dernière. Selon M. Trump, l'OMS a empêché la transparence et Washington va maintenant discuter de ce qu'il faut faire avec tout cet argent qui va à cette agence onusienne. Un peu plus tôt hier, le secrétaire d'État Mike Pompeo avait fait savoir que l'OMS n'a pas fait ce qu'il fallait au début de la pandémie.
Le Nigeria hausse le ton et juge inacceptables les discriminations dont seraient victimes ses ressortissants en Chine et que certains d'entre eux ont testé positif au COVID-19. Abdourahmane Dia.
Après avoir rencontré l'ambassadeur chinois à Abuja, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Jeffrey Onyema, a déclaré à la presse qu'il y avait des vidéos circulant sur les réseaux sociaux de scènes très inquiétantes et d'incidents impliquant des Nigérians dans la ville de Canton en Chine, selon lesquels les Nigérians étaient victimes de discrimination et stigmatisés comme porteurs du COVID-19. Il a réclamé des autorités chinoises une action immédiate pour y mettre un terme. Le chef de la diplomatie nigériane a expliqué avoir invité l'ambassadeur de Chine pour l'informer que la situation est extrêmement pénible et inacceptable. Le diplomate chinois a lui dit que son pays restait attaché aux bonnes relations entre Pékin et Abuja. Dimanche, la Chine avait démenti tout racisme et promis d'améliorer les conditions des Africains à Canton. L'Union africaine a déjà exprimé sa préoccupation et appelé Pékin à réagir, tandis que les États-Unis ont dénoncé la xénophobie de la Chine à l'égard des Africains. Quelques 343 Nigérians vivant en Chine ont été infectés par le coronavirus, tuant 10 d'entre eux.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque qui a tué 25 soldats maliens le 7 avril dans la région de Gao. Les détails avec Eric Manirakidza.
Dans un communiqué publié le 10 avril, trois jours après l'attaque, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais aussi en parallèle l'action de ces combattants contre les forces étrangères au Mali, dont la France et l'Espagne, et le nouveau coronavirus. La pandémie a aussi frappé dans les rangs des forces d'invasion au Mali. C'est le signe de la quasi-désintégration de cette alliance, dit-il dans un communiqué traduit par le groupe américain SITE, spécialisé dans la surveillance des formations extrémistes. Le GSIM cite la décision récente de l'Espagne de retirer temporairement ses instructeurs militaires du Mali, mais aussi d'Afghanistan et d'Irak. Cette décision a été prise en raison de l'état d'épuisement du pays à cause de la pandémie, dit ce groupe terroriste. L'état-major espagnol a retiré ses 85 soldats opérant avec la mission d'entraînement de l'Union européenne. Madrid a justifié ce rappel par l'interruption des opérations de formation dans ces pays à cause du COVID-19. Selon le gouvernement malien, 25 soldats ont été tués le 7 avril dans l'attaque du poste militaire de Bamba dans la région de Gao.
La Minute Éco, Nani Talani.
L'Égypte reporte la vente de sa participation minoritaire dans la Banque du Caire, une entreprise publique, dans le cadre d'une introduction en bourse à partir de la mi-avril en raison de la propagation du nouveau coronavirus et de l'impact sur les marchés boursiers locaux et mondiaux. La banque fait partie d'une relance d'un programme de privatisation impliquant une longue liste des sociétés d'État qui a été annoncée il y a 3 ans mais qui a subi des retards répétés. Les patrons de Vodacom et du prêteur sud-africain Absa verseront un tiers de leur salaire pour les trois prochains mois à un fonds de soutien créé en réponse à l'épidémie du coronavirus. Ils se joignent aux dirigeants d'autres grandes sociétés qui répondent aux appels du président Cyril Ramaphosa à suivre l'exemple du gouvernement sud-africain. Ce dernier avait déclaré plus tôt que les salaires des hauts fonctionnaires devraient être réduits au bénéfice de la lutte contre le Covid-19. Terminons par le FMI qui versera une aide d'urgence à 25 pays parmi les plus pauvres du monde, dont 19 pays africains. C'est pour leur permettre d'alléger leurs dettes et allouer une plus grande partie de leurs propres ressources à l'impact de la pandémie du coronavirus. Cet allègement de la dette passe par le Fonds fiduciaire d'assistance et de riposte aux catastrophes naturelles ou de santé publique sous forme de dons aux pays les plus pauvres et les plus vulnérables.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les lignes bougent en Côte d'Ivoire dans la course à l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. L'un des candidats déclarés, Eugène Diomandé, s'est retiré de la course à la succession de Sidi Diallo et apporte désormais son soutien à l'ancien international Didier Drogba. Président du CE Sport de San Pedro, Diomandé estime que la candidature de Didier Drogba est une chance pour le renouveau du football ivoirien. Il est le deuxième candidat à se retirer des élections à la présidence de la FIFA. Avant lui, Malik Touré, initialement candidat, s'est rallié à Idriss Diallo qui fera face à Drogba et à l'actuel vice-président Sori Diabaté. L'Assemblée générale de la FIFA, prévue pour mai, fixera la date de l'élection. En athlétisme, le Kenya Daniel Kinua Wanjuru, vainqueur du marathon de Londres en 2017, est suspendu à titre conservatoire par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. Cette instance lui reproche des irrégularités concernant son passeport biologique. La charge retenue contre le marathonnier de 27 ans est le recours à une substance interdite. En plus de son succès sur le marathon de Londres, Kinua s'est classé 8e des mondiaux sur la distance la même année, avant de signer une 5e place sur le marathon de New York en 2018. Et puis la star jamaïcaine Usain Bolt fait fureur sur les réseaux sociaux en contribuant à la lutte contre le coronavirus. L'ancien sprinteur a posté une photo de son époustouflante victoire aux 100 mètres des Jeux Olympiques de Pékin 2008, légendeux de l'expression « distanciation sociale ». Le cliché montre l'athlète jamaïcain franchir la ligne en finale du 100 mètres, loin devant tous ses concurrents au nid d'oiseaux de Pékin, établissant au passage le record du monde à 9 secondes 69. La publication cumulait hier mardi plus de 600 000 j'aime sur Instagram, 500 000 sur Twitter et 300 000 réactions sur Facebook. Usain Bolt, on le rappelle, compte 8 médailles d'or aux JO 2008, 2012 et 2016. Ici aux États-Unis, Russell Westbrook a fait don de 650 ordinateurs à des enfants dans le besoin alors que les écoles sont fermées à cause du coronavirus. L'association Why Not entendait pourquoi pas de la star des Houston Rockets s'est associée à une autre à but non lucratif, Camp UDRAP, pour fournir ce matériel éducatif. Cette dernière association a donné près de 1000 ordinateurs à des familles de Houston depuis le 18 mars. Les familles s'inscrivent à une loterie pour avoir la chance d'en bénéficier.
Vous êtes croyant, animiste ou athée, VOAfrique vous accorde une tribune dans le dialogue des religions pour parler de la religion, de la vie et de la société. Vous ne penserez jamais tous de la même façon, vous ne verrez qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. Vivre, c'est aussi un privilège, un cadeau à protéger. Retrouvez donc Eric Manirakiza tous les mercredis et dimanches à partir de 19h temps universel sur VOAfrique et voafrique.com. Sans oublier la page Facebook, laissez-nous vos numéros et partagez vos commentaires ou témoignages. Mais n'oubliez pas, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu meilleur que vous l'avez trouvé. Bienvenue au Dialogue des Religions.
Aujourd'hui, VOA Afrique.
votre compagnie, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les avocats de Vital Kamerhe, directeur de cabinet et principal allié du président Félix Tshisekedi, sont allés en appel hier pour réclamer sa remise en liberté. La défense parle d'un acharnement politique et considère que M. Kamerhe, arrêté sur des soupçons de détournement de fonds destinés aux travaux de construction, a montré toutes les preuves qui le disculpent. Eddy Sango a joint à Kinshasa l'un des avocats de M. Kamerhe, Maître John Kaboto.
Monsieur Vital Kamerhe, c'est un citoyen congolais et il jouit de ses droits civils et politiques. Les raisons qui ont fait ce que nous puissions solliciter au moins sa mise en liberté provisoire. D'abord, il a une résidence bien connue, il a une identité bien connue. C'est un responsable, c'est un directeur de cabinet en fonction du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, Tshisekedi. Et puis, sa fuite n'est pas à craindre. Surtout, les indices sérieux de la culpabilité pouvant peser sur sa personne, on n'y trouve pas. Nous ajoutons que pendant cette période de la pandémie où le président de la République a décrété au moins l'état d'urgence, nous insistons que sa fuite n'est pas craindre puisque toutes les frontières de la RDC sont fermées.
De l'autre côté, le procureur du parquet de Matete estime avoir des indices sérieux de culpabilité de la part de votre client, entre autres l'affaire des médicaments et autres. Qu'est-ce que vous répondez à cela?
Vous invoquez la question des médicaments. Il n'y a aucun indice sérieux d'équipabilité qui pèse sur M. Kamerhe, je me répète, parce que même l'officier du ministère public était en difficulté de nous démontrer là où M. Kamerhe est trempé dans l'affaire des médicaments. Et alors, on risque jusque-là, quand vous lisez l'ordonnance qui a refusé à M. Kamerhe la liberté provisoire, c'est une ordonnance qui n'est même pas motivée, où le manque de motivation c'est dû au manque des indices sérieux d'équipabilité qui pouvait peser sur notre client. Nous disons que non, jusqu'à preuve du contraire, M. Kamerhe jouit de la présomption d'innocence. Par conséquent, lui accorder la liberté provisoire, ce n'est pas cassé.
Vous parlez d'acharnement et vous aviez autrefois évoqué le fait que le procureur aurait été appelé au téléphone pendant qu'il interrogeait M. Kamerhe. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails dans cela, juste brièvement?
Je suis avocat. J'ai un droit de réserve pour vous livrer les secrets de l'instruction, parce que l'instruction chez nous inquisitoriale a un caractère secret. Et alors, vous dire que non, voilà, nous avons évoqué l'acharnement. Allez-y comprendre que M. Kamerhe, c'est un monsieur bien connu. À son rang, là, on ne pouvait pas les placer sous mandat d'arrêt provisoire dans les conditions qu'on l'a placé. Alors nous avons vraiment déploré au moins ses comportements, puisque M. Kamerhe est disposé de bien coopérer et collaborer avec la justice congolaise.
S'il faut vous opposer ou opposer aux indices des culpabilités dont parle le procureur. Qu'est-ce que vous avancez comme élément pour disculper votre client? Il n'y a pas eu détournement, il n'y a pas eu tout ce dont on l'accuse.
La question des indices sérieux de culpabilité, c'est une question très relative, messieurs les journalistes. Nous, en tant que la défense, moi personnellement, son avocat, je n'ai pas trouvé les incriminations relatives au détournement des deniers publics qu'invoque au moins l'officier du ministère public. Jusqu'à preuve du contraire, je clame l'innocence de M. Kamerhe parce que je n'ai trouvé aucun document l'incriminant dans ce sens-là. C'est comme ça que j'ai dit non. En tout cas, la motivation de l'ordonnance de sa mise en détention était quasiment vide.
Maître John Kaboto, l'un des avocats de Vital Kamerhe, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Le Bénin a enregistré jusqu'à présent 35 cas de contamination. 29 personnes sont sous traitement, 5 cas sont guéris et une personne est décédée. Pour lutter contre la propagation du virus, les autorités ont procédé à l'installation d'un cordon sanitaire autour de 15 communes, dont Cotonou. Les conducteurs de taxis et les tenanciers de bars subissent mal les mesures restrictives. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Pendant un mois, les personnes habitant au sein du cordon sanitaire ne pourront le traverser, sauf en cas d'extrême urgence et muni d'une dérogation signée par l'autorité préfectorale. Une pilule amère pour certains comme Ernest, qui pensait négocier se rendre chez ses parents. Il dénonce un excès de zèle de la part des forces de l'ordre.
On m'a empêché de passer. Voilà que vous pouvez voir dans le véhicule, je suis seul. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé que je passe. J'ai écouté les communiqués à la radio, dans toutes les lignes. Et non, ils n'ont pas refusé à un personnel comme moi qui est seul dans mon véhicule de passer.
Le cordon sanitaire, c'est aussi l'interdiction faite aux taxis interurbains de transporter plus de 3 passagers. Même si cela reste un manque à gagner pour ces derniers, ils se disent obligés de s'y conformer afin de se mettre à l'abri du virus.
C'est la santé avant tout, dit-on. Bien que ça soit difficile pour nous, c'est encore louable. Mais c'est dur pour nous, mais on n'a pas le choix.
Nous les chauffeurs, on est découragés. Parce que c'est ça qui nous fait que nous aussi on trouve de l'argent. Tout ce qu'on mange par jour, c'est ça qui nous donne. Maintenant, ça nous a coincé, on ne peut même pas bouger. Rien ne sort même pas.
Depuis le 30 mars, les écoles, les églises, les universités, ainsi que les bars et buvettes et quelques restaurants qui reçoivent du monde ont fermé leurs portes, mettant au chômage technique quelques dizaines de personnes. Les patrons des bars et buvettes comprennent l'urgence de l'heure et espèrent des lendemains meilleurs pour leur business. Quelques-uns rencontrés se prononcent.
On a tout stoppé pour barrer la voie à cette crise-là.
Nous allons dire que ça fait juste mal à tout le personnel de la maison, y compris moi-même. Mais nous avons l'obligation parce que nous devons protéger nous-mêmes et protéger aussi les autres. La vie est chère plus que le bar. Alors, on n'a pas le choix.
C'est désert. Les bars regroupent beaucoup de gens. Et on a l'autorité, le gouvernement a juste autorisé les restos.
Mais que dire des couvents dont le nombre de personnes qui y vivent échappe au contrôle de l'État. Rapprocher les chefs traditionnels disent avoir mis la géomancie à contribution pour connaître les attitudes à adopter face au mal.
Quand ça arrive, il y a des dispositions que nous prenons à partir de la consultation de FA pour savoir par où il faut prendre. Et nous avons observé les rituels conséquents par rapport à ça.
Pour se protéger du virus, certains ménages ont installé devant leur portail des inscriptions demandant à toute personne de se laver les mains avant d'y entrer. Mais d'autres continuent de penser que le coronavirus est une invention pure et simple.
Coronavirus, moi je ne crois pas. Il faut de laver les mains. Ça, si on fait de manger, on lave les mains. Non? Il n'y a pas de différence. C'est toujours la même chose. Il faut de salir. Si tu pas de salir, c'est que les gens ne vont pas s'embrasser.
Il faut que tout le monde prend conscience pour savoir que ça existe, le mal existe vraiment et ça tue.
Nous suivons rigoureusement les instructions du gouvernement parce que le coronavirus est devenu une réalité.
Même si les mesures sociales attendues par la population ne sont pas encore au rendez-vous, le gouvernement veille à limiter les situations pouvant conduire à une contamination de masse. Lundi, 106 agents exerçant à l'hôpital de la mère et de l'enfant ont été placés en quarantaine après que les tests effectués sur une sage-femme se sont révélés positifs. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonné pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 474 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 474 de Canal+.
Le Gabon renforce son dispositif de surveillance à l'épidémie de coronavirus. Le gouvernement a mis la capitale et 3 communes environnantes en confinement total. Le pays est en état d'urgence depuis dimanche. De Libreville, reportage de notre correspondant Ismaël Obiangze.
2 semaines de confinement total pour Libreville avec un possible prolongement de la mesure si nécessaire. Les premières heures de cette décision visant à limiter la contamination communautaire de l'épidémie à coronavirus provoquent des grincements de dents dans certains foyers. Aurélie Meillon est propriétaire de bar.
Vous demandez à une population qui vit à 80%, je dis bien à 80%, au jour le jour. Sors le matin, je pense à mes soeurs qui ont des petits bars, je pense à mes mamans qui vont au marché, je pense à toutes ces personnes-là qui n'ont même plus de clients parce que tout le monde est enfermé. Un individu qui a faim n'a pas peur de la maladie. Il va sortir parce qu'il va chercher de quoi manger. Mon bar est fermé, j'ai les bons.
La capitale gabonaise a des allures de ville fantôme depuis ce lundi. Plus de 2000 agents de force de l'ordre et de sécurité quadrillent le périmètre urbain pour faire respecter l'état d'urgence décrété par l'exécutif. Pour Claude Anguilé, médecin, la situation du moment l'impose.
Ou on reste à la maison, on contient l'épidémie, ou on circule avec l'épidémie et avec le virus et on met en danger tout le monde.
Le débat se prolonge dans les chapelles politiques proches de l'opposition, accusant le gouvernement d'avoir mis la charrue devant les bœufs, lui Gaston Maïla, président de l'Union pour la Nouvelle République.
Là où nous sommes là, même avec lesquels nous comptons, quelle est la nécessité d'empêcher aux gens de quitter Libreville qui pourraient aller dans son village? Le couvre-feu est déjà celui là. Donc on ne circule pas. À partir de 18h, c'est terminé. Rendons-nous à l'évidence qu'il y a une carence de gouvernance.
Le Premier ministre rappelle les modalités pratiques du confinement total actuel du Grand Libreville. Julien Corbécalé.
Les citoyens des quatre communes concernées doivent rester chez eux. Seuls les services dont les missions sont jugées essentielles sont autorisés à exercer dans le respect des mesures, bien sûr, de prévention liées à cette pandémie.
Le gouvernement gabonais a par ailleurs annoncé le dépistage massif des populations cette semaine, de même que les opérations de distribution d'aide alimentaire pour les populations économiquement faibles en cette période de crise sanitaire. Libreville, Ismaël Obianzé, VO Afrique.
Abdelrahman Dia avec vous. Washington Forum revient cette semaine depuis la maison pour cause de COVID-19 et nous allons discuter justement des mesures de restriction allant jusqu'au confinement, voire l'état d'urgence dans certains pays pour stopper la propagation du COVID-19. Dans d'autres pays, les autorités vont même jusqu'à utiliser la géolocalisation grâce au smartphone pour, disent-elles, une meilleure traçabilité des personnes ayant testé positif au coronavirus. Certaines organisations de défense des droits humains jugent ces mesures excessives. Nous allons discuter de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
Au Cameroun, le port du masque facial est obligatoire pour chaque citoyen. Le pays a commencé la production à grande échelle de chloroquine pour traiter le COVID-19. Les hôpitaux sont déjà débordés avec plus de 850 cas confirmés en 6 semaines. Qui pourrait devenir plusieurs milliers dans les prochains jours. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé, repris ici par Lionel Gahima.
Presque tout le monde dans les rues de Yaoundé arbore un masque respiratoire. La police veille à faire respecter la mesure prise par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus. Christian Yubin, 22 ans, s'exprimant via une application de messagerie, assure que la police l'a forcé à acheter et porter un masque facial.
Les températures sont très élevées, jusqu'à 35 degrés, et ils nous demandent de porter un masque qui nous étouffe. Je pense que la meilleure chose à faire est de respecter la distance sociale, rester éloigné des gens.
Le docteur Georges-Alain Toundimbala, directeur des opérations contre les pandémies et épidémies au ministère camerounais de la Santé, insiste sur les mesures préventives étant donné que les hôpitaux sont déjà débordés par le nombre de personnes infectées.
On va libérer des lits, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux qui n'ont pas besoin de traitement immédiat. Après, on peut monter en puissance plus loin, libérer les cliniques. Aller plus loin, libérer des gymnases, etc. Donc c'est vraiment une montée en puissance qui va imposer, bien sûr, de plus en plus des sacrifices, des désagréments et la mobilisation de tout le pays.
Madeleine Chouenté, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, a fait savoir qu'en plus du port obligatoire du masque, le gouvernement a ordonné la production de chloroquine pour traiter les malades. Selon elle, le Cameroun a commencé à produire 6000 comprimés par jour et espère augmenter considérablement cette production quand il recevra plus d'ingrédients en provenance de la Chine.
Le gouvernement veut qu'avant que ça ne fasse le pic, on puisse fabriquer 8 millions de chloroquine par jour ici au Cameroun. Nous pensons qu'on pourra être à la hauteur de servir tous les Camerounais. Ce qui manque actuellement, c'est les intrants qui sont en Chine et en Inde. La Chine est prête à nous les livrer en 2 semaines.
La chloroquine est l'un des plus anciens antipaludéens. Ces dernières décennies, le médicament s'est fait remarquer comme agent antiviral potentiel.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.